Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on va lire une conférence du Cheikh Salih al-Fawzan. Son titre c'est « Al-Khilafu bayna al-Ulama'i wa mawqifu al-Muslimi minhu ». Donc la divergence entre les ulamas et la position du musulman vis-à-vis de cette divergence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى نوه بشأن العلماء والعلم في كتابه المبين في آيات كثيرة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما يدل على عظم مكان العلم والعلماء وحاجة الناس إليهما في كل زمان ومكان فإن الله سبحانه وتعالى نوه بشأن العلم في آيات كثيرة وحث على التعلم والتفقه وذم الذين لا يفقهون ولا يتفقهون وَلَا يُبْصِرُونَ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ. Donc il dit qu'Allah, dans le Coran, a beaucoup parlé de la science et des ulamas, et il nous a encouragés à apprendre la science, et il a blâmé ceux qui ne l'apprenaient pas. Et aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, ce qui montre le besoin, à chaque époque et à chaque endroit, que les gens ont vis-à-vis de la science, et vis-à-vis des ulamas. وشبههم بالأنعام بل هم أضل سبيلا ومدح العلماء فقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Il dit même Allah a fait ressembler, c'est-à-dire a donné comme exemple à ceux qui n'apprennent pas et qui ne comprennent pas. Il a donné leur exemple, l'exemple des bestiaux qui ne comprennent rien. Et Cheikh Idim, ils sont même plus égarés que ça. Et au contraire, il a vanté les ulamas. Et il a dit dans le Coran, Allah atteste qu'il n'y a de vraie divinité que lui, ainsi que les anges et les gens qui ont la science. Donc Allah a mentionné le témoignage des ulamas avec le témoignage, avec son propre témoignage et le témoignage des anges. وما ذاك إلا لأن عندهم أهلية استحق بها من الله هذه المكانة كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Et ça, ce n'est que parce qu'ils ont une place auprès d'Allah par laquelle ils ont mérité cette louange. Et comme Allah dit, parmi ses serviteurs, personne ne craint Allah si ce n'est les ulama. C'est-à-dire seuls les ulama craignent Allah de parmi ses serviteurs. فالعلماء هم أشد الناس خشية لله لأنهم يعرفون الله أكثر من غيرهم يعرفون جلاله وعظمته وكبرياءه وقدرته وفضله وإحسانه والرغبة لله ومحبته ولأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. Il dit les gens donc de science, العلماء, ce sont les gens qui ont la plus grande crainte d'Allah puisqu'ils connaissent Allah plus que les autres et ils connaissent sa grandeur et ils connaissent sa capacité, et ils connaissent aussi sa miséricorde et sa grâce. Et plus la personne connaît Allah, plus elle craint Allah. بخلاف الذين لا يعلمون فإنهم من أبعد الناس عن معرفة الله وأسمائه وصفاته. Contrairement à ceux qui n'ont pas de science, ils sont les gens les plus lointains de la connaissance d'Allah et de ses noms et de ses attributs. ولذلك هم أضعف الناس خشية لله عز وجل. C'est pour ça qu'ils sont les gens qui ont la plus faible crainte d'Allah. وكذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى أمر بإفساح المجلس لأهل العلم ولا سيما مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمهم وتصديرهم لأن الله سبحانه وتعالى رفعهم بعلمهم وإيمانهم فقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Et Allah dans le Coran il dit aussi ô vous qui croyez, lorsqu'on vous dit de faire de la place dans les assises, alors faites de la place, et si on vous dit de vous lever, alors levez-vous. Allah élèvera ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont reçu la science à des degrés. Donc il dit Allah, il a ordonné de faire de la place aux gens de science dans les assises, et surtout dans l'assise du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et donc il a ordonné de devancer, de mettre en avant les gens de science. Car Allah les a élevés par leur science et par leur foi. Comme il a dit, Allah élèvera ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont eu la science à des degrés. وهذه الدرجات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى فهو رفعهم هذه الدرجات لصفتين لا من أجل أشخاصهم وأنسابهم وأموالهم أو من أجل مظهرهم أو منظرهم وإنما رفعهم درجات بموجب صفتين الإيمان والعلم فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Et ces degrés auxquels Allah les a élevés, nul ne les connaît si ce n'est Allah, car c'est lui qui les y a élevés pour deux raisons, pour deux caractéristiques qu'ils ont. Pas pour leur propre personne, ni pour leur ascendance, ni pour leur bien, ni pour leur apparence, mais il les a élevés à cause de deux caractéristiques qu'ils avaient, c'est la foi et la science. Comme il a dit dans le verset, il élève ceux qui ont cru et ceux qui ont eu la science, donc ceux qui ont la foi et ceux qui ont la science. فكفى بهذا شرفا لأهل العلم العاملين بعلمهم بطاعة الله سبحانه وتعالى فإنهم أعلى الناس منزلة بعد النبيين وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Donc ça suffit comme noblesse et comme honneur pour les gens de science qui appliquent leur science et qui accomplissent et qui pratiquent l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Ce sont les gens qui ont la plus grande position après les prophètes. Et Allah dit, est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Nafa Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati musawat alladhina la ya'lamuna bil ulama fahum la yastawuna 'inda Allah subhanahu wa ta'ala li'anna al-'ilm rafa'ahum. Donc Allah a renié dans ce verset l'égalité entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire il a renié que ceux qui ne savent pas soient à la même place que les ulama. Car ils ne sont pas égaux, puisque les ulama, leur science les a élevés. فَبِالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ هُمْ أَرْفَعُ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَا يَتَسَاوَ مَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ هُوَ دُونَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ فَالْمُؤْمِنُونَ لَهُمْ فَضْلٌ عَظِيمٌ وَلَكِنْ لَا يَسْتَوِي الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ مِنْهُمْ فَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Il dit donc par la science et par la foi et par les bonnes œuvres, ils sont au degré le plus haut. Et ils sont dans un degré plus haut que les autres. Donc celui qu'Allah a élevé à ce genre de place, il n'est pas égal à celui qui est en dessous de lui. Même si celui qui est en dessous, c'est un croyant parmi les gens de la foi. Et certes, les croyants et les gens de la foi, ils ont un grand mérite. Mais le savant et celui qui n'est pas comme tel, c'est-à-dire l'ignorant, ils ne sont pas égaux. Et ça, c'est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. وأهل العلم هم أهل القول في الدنيا والآخرة قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Et donc ce sont ceux qui parleront aussi les ulama au jour du jugement, comme Allah l'a cité dans ce verset. Ceux qui ont eu la science et la foi disent: vous êtes restés conformément au livre d'Allah jusqu'au jour du jugement. وكذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الفقه عند المشكلات وسؤالهم. Et aussi Allah il a ordonné de retourner aux gens de science et aux gens du fiqh. Le fiqh, c'est-à-dire la science et la compréhension de la religion lors des problèmes. Et il a ordonné de leur poser des questions. لأنهم هم الذين يعرفون أحكام الله على الحقيقة. ولا يتخرسون وإنما يقولون بما يعلمونه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Puisque ce sont ceux qui connaissent les statuts et les règles de la religion. Ils connaissent donc les règles d'Allah et les jugements d'Allah. Ils connaissent les réels jugements d'Allah. Ils ne débattent pas, c'est-à-dire ils ne disent que ce qu'ils connaissent du livre d'Allah et de la sunna du messager. Ils ne font pas de présomption. Ils ne font pas, pardon, de spéculation. Et Allah a dit, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et aussi les gens de science, ce sont ceux qui restent fermes lors des tentations et des troubles, que ce soit des troubles liés au désir d'ici-bas ou des troubles liés aux ambiguïtés et aux doutes. وَلِهَذَا لَمَّنْ خَدَعَ قَوْمُ قَارُونَ بِزِينَتِهِ واغتروا به وتمنوا أن يكونوا مثله أنكر ذلك عليهم أهل العلم. Et dans l'histoire de Qarun, donc qui était un peuple des enfants d'Israël de l'époque de Moussa, donc lorsque les gens ils ont été trompés par toute sa richesse et qu'ils espéraient être comme lui, les gens de science de l'époque ils ont blâmé les gens pour ce désir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fait tromper par Qarun. قال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Donc dans le verset Allah dit, il est sorti vers son peuple dans sa zina, c'est-à-dire il avait ses trésors, ses richesses, ses beaux vêtements, etc. Donc ceux qui veulent la vie d'ici-bas ont dit, si seulement nous avions ce cas Qarun, car certes il est doté d'une grande fortune. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Et ceux qui ont eu la science ont dit, malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui a la foi et qui agit en bien, et nul ne reçoit ça si ce n'est les patients. Donc regardez, les gens de science, ils ont blâmé et ils ne sont pas fait tromper par Qarun. هذا موقف عظيم فماذا كانت النتيجة أن أدرك هؤلاء الذين تمنوا مكانة قارون أدركوا خطأهم عما قريب وعرفوا قدر كلمة العلماء. Donc regardez cette position qu'ont eu les ulama, et le résultat que ça a eu, c'est que ceux qui avaient été trompés par la position de Qarun ont reconnu leur erreur assez vite, et ils ont su la valeur de la parole des ulama. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Et dans le verset Allah dit, nous l'avons englouti ainsi que sa demeure en dessous de la terre, et il n'a eu personne pour le secourir en dehors d'Allah. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. Et ceux qui espéraient être comme lui la veille ont dit, malheur, on dirait qu'Allah, il semble qu'Allah donne son risque, c'est-à-dire donne sa subsistance de façon large à qui il veut, et il la sert à qui il veut. Laula anman Allahu alayna la khasafa bina. Si Allah n'avait pas été bon envers nous, il nous aurait englouti. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Les mécréants ne réussissent pas. Donc ils ont se sont rendu compte de leur erreur grâce à la parole des gens de science. Wa kadhalika mawqifu ahli al-ilm fi kulli mushkilah. Donc c'est ainsi qu'est la position des gens de science dans tout problème. لا ينخدعون بالمظاهر والأموال والجاه والأباء. Eux ne se font pas tromper par les côtés apparents et par la richesse. لأنهم ينظرون بنور الله عز وجل حيث قال ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Puisqu'ils regardent par la lumière d'Allah, comme Allah a dit, quand ils ont dit à leur peuple, malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui a la foi et qui agit en bien, et ne reçoit ça que les patients. ثم تبين وتمحض رأي أهل العلم وأن هذا البريق الذي كان مع قارون سرعان ما زال واضمحل وكم لأهل العلم من موقف في الدفاع عن هذا الدين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقهه الجهال. Donc, c'est-à-dire les gens de science de l'époque, leur opinion elle a été bien avisée, et ils n'ont pas été trompés, et ils ont su que toute cette richesse qu'avait Qarun, ça part vite. Et c'est ainsi que les gens de science ont toujours défendu cette religion et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont des positions dans la défense de la religion et de la sunna que les ignorants ne comprennent pas. فمثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الجبار الذي قتل 99 نفسا ثم إن الله ألقى في قلبه الندم وأراد أن يتوب ولكنه استعظم ذنبه وخشي أن لا تقبل توبته فسأل عمن يفتيه هل له توبة مما فعل من الجرائم الكبيرة فدل على عابد مجتهد في العبادة لكنه جاهل ليس عنده من العلم شيء فسأله أنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فاستعظم هذا الذنب وظن أن رحمة الله لا تسع هذا الذنب وأن الله لا يقبل هذه التوبة لأنه جهل صفات الله عز وجل وسعة رحمته وجهل سعة توبة الله على عباده وفرحه بتوبة عبده فقال ذلك الجاهل ليس لك توبة فقتله الظالم فكمل به المئة. Donc par exemple, une des positions des gens de science, c'est l'histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté sur ce bonhomme qui avait tué 99 personnes, et Allah il lui a permis de regretter son péché, et il s'est rendu compte de la grandeur de son péché, mais il pensait qu'il ne pouvait pas se repentir, puisqu'il voyait que son péché était trop grand. Et donc il a demandé à quelqu'un, qu'on lui présente quelqu'un à qui il pourrait poser la question. Et on lui a présenté quelqu'un qui était quelqu'un qui faisait beaucoup d'adoration, donc un adorateur, mais qui ne connaissait rien à la religion, et qui ignorait la largesse de la miséricorde d'Allah, et comment Allah accepte le repentir de ses serviteurs. Et donc il lui a demandé, voilà, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux me repentir? Et l'autre il lui a dit non, parce qu'il pensait que la miséricorde d'Allah n'était pas assez large pour accepter le repentir d'une telle personne, et d'un crime pareil. Et la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'il l'a tué, et il a complété le nombre de 100 victimes. هذه نتيجة الجهل ثم سألها من عالم يفتي. Donc voilà le résultat de l'ignorance. Ensuite il a demandé à propos d'un savant. فدل على عالم فذهب إليه وقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال العالم نعم ومن يحول بينك وبين التوبة. Donc quand il a rencontré ensuite un savant, il lui a dit bien sûr tu peux te repentir, et qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? لأن العالم يعلم سعة رحمة الله وفضله وإحسانه وأن الله يقبل التوبة عن عباده. Puisque le savant il connaît la grandeur de la miséricorde d'Allah et de sa grâce, et qu'Allah il accepte le repentir de ses serviteurs. كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Comme dans le verset où il est dit à mes serviteurs qui ont été injustes envers eux-mêmes qu'ils ne désespèrent pas de la miséricorde d'Allah. Allah certes pardonne tous les péchés, il est Al-Ghafur Ar-Rahim, le pardonneur le miséricordieux. Wa qala ta'ala qul lil-ladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Et dans l'autre verset, dit à ceux qui ont mécru, s'ils arrêtent, il leur sera pardonné ce qu'ils ont fait. Wa at-tawbatu tajubbu ma qablaha. فهذا العالم استطاع بما آتاه الله من علم أن يفتي هذا الحائر بالحكم الصحيح الشرعي. Et le repentir, il efface tout ce qu'il précède. Donc ce savant, il a réussi, grâce à ce qu'Allah lui a donné comme science, à donner le fatwa, yufti, c'est-à-dire à donner une bonne réponse à cette personne qui était dans le doute, et à lui montrer la bonne réponse conforme à la religion. قال له ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك في أرض سوء فذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. Donc il lui a dit, rien ne t'empêche. Donc qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Il n'y a rien qui t'empêche de te repentir, mais tu es dans une mauvaise terre. Donc pars à telle et telle terre, tel et tel endroit, puisqu'il s'y trouve des gens pieux qui adorent Allah. Donc adore Allah avec eux. فأفتاه أيضا بأن يهاجر إلى أرض صالحة ويترك البيئة التي عاش فيها. Donc il lui a ordonné d'émigrer vers une terre pieuse et de délaisser l'atmosphère dans laquelle il vivait. لأنها بيئة غير صالحة فخرج مهاجرا وفي أثناء الطريق أدركته الوفاة فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قد. وملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا إلى الله عز وجل فأرسل الله من يحكم بينهم فقال لهم قيسوا ما بين البلدتين فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة ونجا من عذاب الله. Donc ensuite, il est parti en tant qu'émigrant vers cette terre, et il a mort la surpris pendant son voyage. Et les anges de la miséricorde et les anges du châtiment, ils ont discuté pour savoir qui d'entre eux devait le prendre. Donc les anges du châtiment, ils disent il n'a jamais fait de bien. Et les anges de la miséricorde, ils disent non, c'est quelqu'un qui est sorti repentant envers Allah. Donc c'est à nous de le prendre. Donc Allah, il a envoyé un ange pour juger entre eux. Et en leur disant, mesurez ce qu'il y a entre les deux pays. Est-ce qu'il est plus proche du premier ou de deuxième pays? Et ils ont trouvé qu'il était plus proche du pays où ils devaient partir, de un chibre, c'est-à-dire l'équivalent d'une main, et donc il est rentré. Ce sont les anges de la miséricorde qui l'ont pris, et donc il a été sauvé du châtiment. Tout ça, quelle en était la cause? C'était le savant qui lui a donné une réponse conforme à la science, avec science. فهذا يتجلى فيه موقف العلماء عند الشدائد والحاجات وأنه إذا نزل بالناس نازلة ومشكلة فليس لها إلا أهل العلم. Donc tout ça, ça montre clairement la position des savants lors des situations difficiles. Et que quand il y a une situation qui arrive aux gens, ou une catastrophe, ou un problème, eh bien ils n'ont que les gens de science vers qui se tourner. قَالَ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Comme dans le verset, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَقُولَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont pas laissé en héritage de dinar ni de dirham, mais ils ont laissé la science. Donc celui qui l'a pris a pris une grande fortune. Al-hadh, c'est-à-dire il a pris une grande part. فهذا أيضا مما يدل على فضل العلماء أنهم ورثة الأنبياء. Donc ça montre aussi le mérite des savants, puisqu'ils sont les héritiers des prophètes. فحينما يرث الناس الأموال والقصور والخيل المسومة والأنعام والحرث فالعلماء يرثون العلم الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا لا يعادله شيء. Donc alors que les gens ils sont en train d'hériter les chevaux et les biens et les champs et les bestiaux, etc., eux, les ulama, ils sont en train d'hériter la science des prophètes. Donc il n'y a rien qui n'équivaut à ça. وقد مر أبو هريرة بسوق المدينة فوقف وقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قال وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قال وأين هو؟ قال في المسجد. Donc là, il raconte une histoire comme quoi Abu Huraira, radiallahu anhu, il est passé dans le marché de Médine. Et il a dit aux gens, en gros, c'est comme s'il leur disait, vous savez pas y faire ou vous perdez. Et il leur dit pourquoi. Et il leur a dit, l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est en train d'être distribué dans la mosquée. Alors pourquoi vous partez pas prendre votre part? فَخَرَجُوا سُرْعَاً ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم قالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. Donc après ils sont revenus, Abu Huraira il les attendait et ils ont dit, on a été à la mosquée, on n'a rien vu de tout ça, on n'a pas vu d'héritage qui est en train d'être distribué. فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد. Il leur a dit, qu'est-ce que vous avez vu à la mosquée? قالوا رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. Ils ont dit, on a vu des gens qui prient, des gens qui lisent le Coran, des gens qui se rappellent ce qu'est le halal et ce qu'est le haram. Il leur a dit, voici l'héritage de Muhammad صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وفي رواية كفضلي على أدناكم. Et dans le hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, le mérite du savant vis-à-vis de celui l'abid, celui qui adore Allah, c'est comme le mérite de la lune le soir de pleine lune sur le reste des étoiles. Et dans une autre version il a dit, c'est comme mon mérite vis-à-vis du mérite du plus bas d'entre vous. Ça c'est dans la Sunan de Tirmidhi. وهذه رفعة عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم شبه العلماء بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر فإذا طمست النجوم أوشك أن تظل الهدات. Il dit, ça c'est un grand degré, une grande grâce, et le prophète صلى الله عليه وسلم il a comparé les savants à des étoiles par lesquelles les gens ils se guident dans les ténèbres de la terre et de la mer. Et quand les étoiles s'effacent, ils se perdent. Donc il en est ainsi dans cette vie. Quand il n'y a plus de ulama, les gens ils se perdent parce qu'ils n'ont personne pour les guider. ولهذا إذا قبض العلم من الأرض قامت القيامة كما في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. À tel point que quand la science elle sera plus sur cette terre, alors arrivera le jour du jugement. Comme il a été cité dans le hadith, qu'Allah n'enlèvera pas cette science en l'enlevant des gens, mais il l'enlèvera en enlevant les ulama, c'est-à-dire en faisant mourir les ulama. Jusqu'à ce qu'il ne fasse plus rester un seul savant, les gens prendront à leur tête des ignorants. Ils prendront, c'est-à-dire comme tête, c'est-à-dire comme dirigeant ou comme ru'usan, c'est-à-dire pour les... Ils prendront au-dessus d'eux, à leur tête, des ignorants, et ils seront questionnés et ils répondront sans science, alors ils égareront et s'égareront eux-mêmes. Ça c'est dans, notamment dans le Bukhari et Muslim. وفي حديث لأن تموت قبيلة بأسرها أيسر على الله من موت عالم. Là ici t'as un hadith qui dit, donc Allah, il n'y a pas de takhrij, il dit c'est dans Majma al-Zawaid, wa alaykum salam wa rahmatullah, qu'une tribu entière elle meurt, c'est moins grave pour Allah que la mort d'un seul savant. Ensuite, il cite un poème. Il dit « La umruka marraziyatu faqdu malin, wa la shatin tamutu wa la ba'ir, wa la ba'iru, wa lakin irraziyatu faqdu habrin, yamutu bimautihi khalqun kathiru. » Il dit « La catastrophe n'est pas de perdre des biens, ou un mouton, ou un chameau, mais la catastrophe c'est de perdre un savant par lequel meurent beaucoup de gens. » فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم ولا يصلح الناس بدون وجود العلماء. Donc les ulama ils ont leur position et leur mérite, et les gens ils ne peuvent être en bien que avec la présence des ulama. والمراد بالعلماء أهل العلم النافع والعمل الصالح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الله بعث نبيه بالهدى ودين الحق. Et ce qui est voulu quand on dit les ulama sont les gens de science, de la science bénéfique et des bonnes actions par lesquelles Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car Allah ne l'a envoyé que bil huda wa din il haq, avec la guidée et la religion de vérité. Plutôt en fait din ul haq, c'est-à-dire c'est comme si on disait ad din ul haq, c'est-à-dire la religion véridique. Kama qala ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din il haq, comme dans le verset il est dit c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion véridique. وهو العلم النافع والعمل الصالح. Et la guidée, ce qui est voulu par là, c'est la science bénéfique et la religion véridique, c'est-à-dire les bonnes œuvres. فمن جمع الله له بين العلم النافع والعمل الصالح فقد حصل على ما بعث به ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc celui qui arrive à avoir la science bénéfique et les bonnes œuvres, alors il a acquis ce par quoi Allah a envoyé le messager صلى الله عليه وسلم. والعلماء لهم مكانتهم وقدرهم ولا يبخس ولا ينقص من قدرهم إلا زنديق منحرف يبغض الحق وأهله أو جاهل مركب يغتر بما يسمع من كلام أهل النفاق وأهل الريب. Il dit donc les ulama ils ont leur position et leur mérite, et nul ne les critique ou alors ne diminue de leur position si ce n'est un zindiq, c'est-à-dire un zindiq c'est quelqu'un comme un munafiq qui sort de l'islam, qui est déviant et qui déteste la vérité et les gens de la vérité, ou alors un ignorant qui est trompé parce qu'il entend des doutes et des gens de l'hypocrisie. Comme قص الله تعالى في القرآن أن المنافقين تناولوا بالذم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأنزل الله عز وجل على رسوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Et Allah il a mentionné dans le Coran que les hypocrites à l'époque ils ont blâmé le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons. Ils ont dit, donc ça c'était pendant une bataille, ils ont dit on n'a pas vu comme nos qurra, ce qui était voulu, c'est le pluriel de qari, c'est-à-dire ceux qui lisent le Coran, c'est-à-dire les savants. On n'a pas vu des gens qui ont des ventres plus gros et des langues plus mensongères et des gens plus peureux lors de la rencontre avec l'ennemi que nos lecteurs, c'est-à-dire ils visaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et Allah a descendu, si tu leur demandes, ils te diront, nous ne faisons que discuter et jouer, c'est-à-dire dans nos propos. On ne visait pas à dire ça, on faisait que rigoler. Dis, est-ce que d'Allah et de ses versets et de son messager vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez mécru après la foi. فالذي يتنقص العلماء في هذا الزمان له نصيب من هذه الآية على قدر ما عنده من البغض لأهل العلم أو التنقص لأهل العلم يناله من هذه الآية ما يناله. Donc celui à notre époque qui critique les ulama, alors il a une part de ce verset, selon le degré auquel il aura critiqué les ulama et les aura détestés. لأن العلماء لهم مكانتهم ولحومهم مسمومة. Parce que les ulama, ils ont une position dans l'islam. Et leur viande, leur chair plutôt, elles sont empoisonnées. Pourquoi il dit ça? Parce que, comme on dit, celui qui médite quelqu'un, dans le Coran, il dit, celui qui médite quelqu'un, c'est comme s'il mangeait sa chair. Donc lui, il dit, la chair des ulama, elle est empoisonnée. C'est-à-dire, si tu la manges, tu meurs. فلا يجوز لأحد أن يصفهم بصفات برأهم الله منها كأن يقول إنهم لا يعرفون فقه الواقع وهذه كلمة عظيمة خطيرة جدا فالعلماء يعرفون فقه الكتاب والسنة وفقه الكتاب وفقه السنة يكشف لهم فقه الواقع. Il dit donc qu'on n'a pas le droit de les qualifier par des choses dont Allah les a innocentés, comme de dire ils connaissent pas, ils ont pas la compréhension de l'waqi', c'est-à-dire l'actualité et la réalité, ils connaissent pas l'actualité. Il dit ça, c'est une parole grande et très dangereuse. Puisque les ulama, ils connaissent, ils ont la compréhension du livre et de la sunna, et la compréhension de la sunna leur fait comprendre la réalité des choses et l'actualité. هذه كلمة خطيرة جدا والواجب أن نستبعدها من الكتب التي كتبت فيها أو ننصح من يتكلم بها وأن نعيد الثقة إلى أنفسنا وإلى علمائنا والذي يقول هذه المقالة لا يضر إلا نفسه ولا يضر العلماء. Il dit donc ça c'est une parole très dangereuse et on doit écarter cette parole des livres et écarter les livres dans lesquels elle a été écrite et conseiller celui qui dit ce genre de parole et de revenir à la confiance en nous-mêmes et à nos ulama. Et celui qui dit cette parole il ne nuit qu'à lui-même et il ne nuit pas aux ulama. فَقَدْ قِيلَ فِي الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا وَلَمْ يَضُرَّهُمْ هَذَا وَإِنَّمَا زَادَهُمْ رِفْعَةً. Puisque il a été dit pire à propos du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, et ça ne leur a pas nui et ça n'a fait qu'augmenter leur position. لكن هذا المسكين يضر نفسه ويضر غيره ممن يحسنون به الظن ويعظمون من شأنه. Mais cette pauvre personne qui dit ça, elle ne fait que nuire à elle-même et elle nuit à autrui parmi ceux qui pensent du bien de lui et qui croit que c'est quelqu'un qui a une position. فالواجب أن نرفض هذه المقالة وأن ننزه ألسنتنا وكتاباتنا منها وأن نعرف لعلمائنا قدرهم ومكانتهم. Il dit donc qu'il faut refuser cette parole et purifier nos langues et nos livres de cette parole et de connaître nos ulama et connaître leur place et leur mérite. والبعض الآخر يقول هؤلاء مداهنون هؤلاء علماء السلاطين إلى آخره كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Il dit et d'autres ils disent ça ce sont des ulama mudahinun, c'est-à-dire ils font des ulama complaisants et les ulama du pouvoir. Il dit quelle grande parole qui sort de leur bouche, ils ne font que dire du mensonge, comme il a cité un verset en fait. وبعض المخدوعين أو المغردين يقول هؤلاء علماء الحيض والنفاس للتهوين من شأنهم. D'autres aussi disent ça c'est les savants des règles et des nifas. Nifas c'est-à-dire la période qui est après l'accouchement, pour diminuer de leur position. وهذا ما يريد الأعداء من المسلمين يرون أن يفصلوا العامة عن العلماء ويريدون أن يفصلوا شباب الأمة عن العلماء. Et ça c'est ce que veulent les ennemis de l'islam, c'est couper entre les ulama et les gens, le commun des gens, et couper entre les jeunes et les ulama. Comme ça, ils n'apprendront plus des savants. Et ça leur laissera l'occasion donc de pouvoir couper le corps de cette umma, c'est-à-dire la diviser. لِأَنَّهُ لَا يَقِفُ فِي وُجُوهِهِمْ إِلَّا الْعُلَمَا. Puisque nul ne se dresse devant eux si ce n'est les savants. فَإِذَا حَالُوا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَبَيْنَ الشَّبَابِ وَبَيْنَ عَامَّةِ النَّاسِ وَعَزَلُوا بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ حِينَئِذٍ سَنَحَتِ الْفُرْصَةُ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلِانْقِضَاضِ عَلَى أُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. Donc si ils arrivent à diviser les ulama du commun des gens et des jeunes, alors ça laissera l'occasion et le terrain aux ennemis d'Allah et du messager pour détruire cette communauté. وَمَا كَانَ يَقِفُ فِي وُجُوهِ الظُّلْمَةِ وَمَا كَانَ يَقِفُ فِي وَجْهِ الْكُفَّارِ وَالزَّنَادِقَةِ وَالْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَهْلُ الْعِلْمِ. Et donc puisque personne ne se dresse contre les injustes et contre les mécréants et les hypocrites et al-zanadiqa, si ce n'est les gens de la science. يُبْتِلُونَ شُبُهَاتِهِمْ وَيَدْمَغُونَ أَقْوَالَهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ يُقِفُونَهُمْ عِنْدَ حَدِّهِمْ وَيَرَدُّونَ عَلَيْهِمُ الشُبُهَاتِ. Puisque donc ils renvoient leurs paroles avec le livre et la sunna, et ils les arrêtent, là où ils doivent s'arrêter, ils renvoient leurs faux arguments et leurs doutes. Ça rappelle une anecdote qu'un frère m'avait racontée. Donc il est sur Paltok, donc Paltok c'est... le parc des Shayatines, hein, à 95%. Et il y a une Shaytana, Ash'ariya, qui ouvre un salon pour elle toute seule. En arabe, et elle dit, voilà, je suis une Ash'ariya. Donc déjà qu'Allah la guide de cette nisba, puisque le muslim, il yantasib ilan nabi, sallallahu alayhi wa sallam, on est censé se rattacher au prophète et pas à une personne qui s'appelle un tel ou un tel. Donc elle dit, je suis une Ash'ariya, et celui qui veut débattre, on y va. Bon, parmi ces bêtises, c'est qu'elle dit notamment, elle dit oui, Ibn Hajar, c'est-à-dire il y a un hadith, comme quoi les cornes du shaitan, elles sortiront de Najd. Et Najd, à notre époque, ce qui est connu comme étant Najd, c'est la région de Riyad. Excusez, j'ai un peu de mal à parler, parce que quand je parle de ça, ça m'énerve un petit peu. En fait, elle dit voilà, donc c'est, en fait, elle fait allusion à Mohammed Ibn Abdel Wahhab. Et un frère, il lui répond, il lui dit, Ibn Hajar, rahimahullah, donc que les Ash'ariyya, ils aiment bien répéter qu'Ibn Hajar, c'est-à-dire au niveau des sifat et tout ça, il voit le ta'wil et il atteste par Allah toutes les sifat comme Al-Sunna ils le font. Donc c'est une preuve pour eux comme quoi l'Ash'ariyya c'est Al-Sunna et tout ça. Il lui dit, est-ce que toi tu prends comme référence Ibn Hajar? Elle dit, bien sûr, Sheikhul Islam, l'imam, etc. Il dit, sache que dans Fath al-Bari, Ibn Hajar, il dit que Najd qui est voulu dans ce hadith, c'est l'Irak. Et Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il n'est pas sorti d'Irak. Et regardez ce qu'elle dit, la pauvre qui aurait mieux fait de s'occuper de ses affaires. Elle dit, ouais, mais là, moi, quand il y a la parole du prophète qui contredit la parole d'Ibn Hajar, moi, je prends la parole du prophète et je rejette la parole d'Ibn Hajar. Donc le frère, il lui dit, eh ben, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah, il descend au dernier ciel de la nuit, au dernier ciel pendant le dernier tiers de la nuit, ben moi je devance la parole du prophète et je rejette la parole d'Ibn Hajar. Et là la meskina qui sait plus ce qu'elle dit, elle dit, non mais ça c'est la aqida, c'est pas pareil, tu mélanges tout. Donc je dois imiter Ibn Hajar dans la aqida et dans le fiqh je fais mon propre ijtihad et je rejette sa parole. C'est-à-dire elle a tout inversé. Mais ça c'est pas ce que je voulais vous raconter. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que qui était en train d'assister à la discussion, les fameuses personnes qui accusent les ulama d'être les ulama du pouvoir et qui se prétendent eux-mêmes ansar al-tawhid ou ansar al-jihad, etc. Donc c'est eux qui secourent le tawhid, c'est eux qui secourent le jihad. Et ils ne savaient rien du tout répondre à cette pauvre Ash'ariya qui avait que des arguments. Celui qui a étudié le wasitiya, il connaît ses arguments, il est détruit tout de suite. Donc c'est à qui ils ont eu besoin de faire appel? Ils ont eu besoin de faire appel à quelqu'un qu'eux-mêmes ils appellent un talafi, qui aime bien Sheikh Al-Fawzan, qui aime bien Sheikh Ibn Baz, qui aime bien Sheikh Abdelaziz Al-Rajihi. Donc c'est un talafi qu'ils ont dû appeler pour répondre à la Ash'ariya. Donc ça revient à ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que quand on est en train de critiquer le ulama, si on dit Sheikh Al-Fawzan si, Sheikh Al-Rajihi ça, le mufti si et le mufti ça, c'est qui nous a expliqué Kitab al-Tawhid? C'est qui nous a expliqué le Wasitiya? C'est qui, sur internet, vous avez des centaines de cours où tous les livres de Muhammad ibn Abdul Wahhab sont expliqués? C'est eux. Donc si vous mettez en garde contre eux, vous mettez en garde contre toute cette science. Et après, il ne faut pas vous étonner si vous n'avez pas appris. Et vous ne savez même pas répondre à une pauvre femme Ash'ariya qui répand des arguments complètement bidons et vous ne savez même pas y répondre. Tout ce que vous, ce sur quoi vous savez discuter, c'est voilà, est-ce qu'il y a le djihad là-bas ou là-bas? Et Cheikh Intel, est-ce que c'est un kafir ou pas? Parce qu'en fait, c'est un savant du roi, etc. Et le roi, si, ça, etc. Alors que ce qui concerne Allah Ta'ala et ses sifat, vous ne savez même pas en parler. Pourquoi? Vous êtes tombé dans votre propre piège. Donc mettre en garde contre les ulama, et au final, ça vous prive de leur science. Et ça, à qui ça bénéficie? Ça bénéficie non seulement donc aux non-musulmans, qui font la guerre à l'islam, et ça bénéficie en même temps à Zanadiqa et aux Jahmiya. Et les Jahmiya qui se fassent appeler Ash'ariya ou Maturidiya ou Soufi ou etc. Ça reste des Jahmiya. C'est les héritiers de Jahmi ibn Safwan et Bishr al-Midrisi que les ulama des Salaf ils ont déclaré mécréants. Et eux maintenant ils prennent le terrain et ils répondent des choubouhettes complètement bidons sur les attributs d'Allah, etc. Donc qui c'est qui va leur répondre si c'est pas quelqu'un qui a appris grâce à Cheikh Salih Al-Fawzan, Abdel Razi Al-Rajihi, Abdel Mohsin Al-Abbad. من الذي قام لمناصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل الأحاديث المكذوبة عنها إلا أهل العلم. Donc Cheikh il revient à l'histoire, il dit qui a secouru la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم et a bien séparé les hadiths qui ont été forgés des hadiths authentiques, si ce n'est les gens de science. من الذين قاموا برد الشبهات وألفوا المؤلفات في الرد على الزنادقة. Qui sont ceux qui ont renvoyé les doutes et les faux arguments et qui ont répliqué à Zanadiqa. Zanadiqa, c'est-à-dire les gens de la spéculation et les Jahmiya. وَالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الضَّلَالِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ وَحَدِيثِهِ إِلَّا أَهْلُ الْعِلْمِ. Et qui a répliqué aux gens de l'égarement, récemment et de façon plus ancienne, si ce n'est les gens de science. Ici, je voudrais faire une parenthèse aussi, c'est que. C'est-à-dire maintenant, il y a beaucoup. Une parenthèse juste pour simplement mettre en garde, pour conseiller les musulmans, c'est que maintenant il y a beaucoup l'Asha'ira, donc ceux qui suivent le dogme Asha'ari, ils répandent beaucoup leur poison sur internet, etc. Et ils profitent du fait que les jeunes en Occident, ils ont une mentalité influencée par la philosophie et par l'Occident, et qu'ils sont loin de la langue arabe et de leur religion, donc c'est comme des pages blanches. Donc eux ils viennent pour leur prêcher leur Aqida Asha'ariya, en leur disant que c'est l'aqida des salafs. Et ils les mettent en garde contre les méchants wahhabites que nous sommes, qui attestent à Allah ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a attesté, sans pour autant dire qu'Allah ressemble à ses créatures, en disant que c'est des méchants wahhabites qui changent les livres. Il y en a même une qui est bien marrante, c'est ils disent les wahhabites ils ont enlevé un tome dans Majmou al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah. C'est marrant parce que c'est un wahhabite qui l'a fait, le Majmou al-Fatawa. Donc c'est quel wahhabite qui a enlevé d'un wahhabite? Il faudrait qu'on m'explique. Puisque c'est un shirk qui est mort il y a une cinquantaine d'années, qui a fait ce regroupement, qui est Majmou al-Fatawa. Et qui est, pour votre définition, c'est un gros wahhabite même. Donc comment on veut dire que les wahhabites, ils ont enlevé un tome? C'est un wahhabite qui a fait le livre. Bref. Et donc ils profitent de ces pauvres pages blanches que sont les pauvres jeunes de France, et ils leur apprennent leur aqida jahmiya. Et ils leur apprennent que c'est la aqida des salafs, etc. Juste une question à ces gens-là. Je voudrais savoir, quand Uthman ibn Sa'id al-Darimi, qui est un savant du hadith, qui est mort au 3e siècle de l'islam, et qui a écrit As-Sunan, c'est As-Sunan, c'est-à-dire comme Al-Tirmidhi, il a écrit Sunan, comme Abu Daoud, c'est-à-dire un livre de hadith, donc qui est un imam reconnu chez les musulmans. Il a écrit un livre qui s'appelle Naqdu Uthman ibn Sa'id ala Bishr al-Mirrisi al-Jahmi al-Anid, réplique de Uthman ibn Sa'id à Bishr al-Mirrisi, le Jahmi orgueilleux. Et quand on lit ce livre, tout ce que eux ils disent, c'est cité dans le livre comme étant les arguments de Bishr al-Mirrisi. Renier qu'Allah il est au-dessus des sept cieux, renier qu'Allah il a deux mains, renier qu'Allah il a une face, et interpréter et détourner de leur sens tous ces versets du Coran. Ça c'est cité comme étant les doutes et la mécréance de Bishr al-Mirrisi, qui est cité dans le livre comme étant bien connu, comme ayant été déclaré mécréant par les ulama des salafs de l'époque. Donc votre salaf, c'est Bishr al-Mirrisi. Contre Uthman ibn Sa'id. Donc est-ce que vous accusez Uthman ibn Sa'id al-Darimi d'être un mushabbih ou un wahhabite et un mubtadi'? Et Bishr al-Mirrisi, selon vous, c'est un sunni? Donc est-ce que ça veut dire que tous les ulamas des salafs de l'époque qui ont se déclaré mécréants, ou au moins ils ont déclaré égarés, et zindiq Bishr al-Mirrisi, c'était tous des mushabbihas? Et donc si on sort la liste, ben ça veut dire les ulamas des salafs du 3e siècle, c'était tous des mushabbihas, des wahhabites, des ignorants qui disent qu'Allah ressemble à sa créature. Et votre Bishr al-Mirrisi, qui faisait que répéter les idées de Jahm ibn Safwan, qui étaient exécutées et déclarées mécréants par les ulamas des salafs, et ceux qui le suivaient, ils étaient appelés Jahmiya, eux c'est Ahl Sunnah wa Jama'a. Masha'Allah, tabarakallah. C'est pour ça, regardez comment ils jouent. Parce que ils savent que les jeunes en France ou en Occident, c'est une page blanche. Donc en fait, eux, ils se dépêchent d'attraper le terrain avant que ces jeunes ils aient accès à la vraie science. Et quand ils les ont attrapés, ils disent, par rapport à ceux qui portent la vraie science, que c'est des wahhabites, c'est des salafistes, et donc c'est des leur doctrine, elle date d'Ibn Taymiyyah. Alors que tout ce qu'il dit Ibn Taymiyyah, on le retrouve dans plein d'autres livres, d'autres ulama qui sont précédents Ibn Taymiyyah et qui sont d'autres pays qu'Ibn Taymiyyah. Donc ça, c'était la parenthèse, pour mettre en garde contre ces charlatans qui disent on représente la majorité de la communauté. Ça, c'est faux. Vous représentez un grand nombre de gens cultivés de la communauté qui sont influencés par une ambiance ash'ariya qu'il y a dans cette communauté, c'est tout. Mais si la plupart des gens, tu lui dis, un simple musulman qui est dans le désert, tu lui dis où est-ce qu'il est Allah, il va te répondre, il est au-dessus des sept cieux. S'il n'a jamais été confronté à un prof Ash'ari. Donc il ne faut pas dire qu'il représente la majorité. Et ils disent aussi, on représente la majorité des quatre écoles. Alors que si on regarde les paroles des quatre imams à ce sujet, elles correspondent à ce que vous accusez d'être des wahhabites, pas à ce que vous dites. Vous ne faites que les suivre dans le fiqh, alors que dans la Aqidah, vous les avez trahis et vous vous êtes détaché de leur voix. Alors que si on regarde, notamment parmi les paroles des salafs, l'imam Ahmed, c'est même pas la peine qu'on en parle, puisque lui, il a écrit des petits livres complets qui ont été écrits soit de lui, soit sur lui, sur le sujet. Et l'imam Shafi, il disait, à propos des gens comme vous, mon jugement à propos d'Ahl al-Kalam, des gens de la spéculation, c'est qu'ils soient traînés sur des ânes dans les tribus et qu'on les frappe avec des sandales et qu'on dise voilà le châtiment, voilà le destin de celui qui plonge dans la science de la spéculation. Donc c'est-à-dire, je mets en garde les jeunes de ne pas vous faire avoir. Donc s'il y en a qui écoutent, il ne faut pas vous faire avoir par ce genre de site. C'est dit un tel qu'ils osent porter les pseudos Malik ibn Anas. Comment tu peux te faire à ton pseudo, tu peux porter le pseudo d'un imam comme ça et toi t'appelles à une aqidah qui est divergente de l'aqidah des salafs. Et ils répandent des choubouettes, et ils ont du talbi, c'est-à-dire des mensonges, et des accusations, et ils accusent les ulama, et surtout Cheikh Al-Albani, et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahab, et Cheikh ibn Baz, et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des parenthèses. Et eux, ils se présentent comme des gens, ils disent, nous c'est par conseil pour les musulmans, qu'on met en garde contre les wahhabites. Mettez en garde contre vous-même et cachez-vous en dessous de la terre et laissez les musulmans tranquilles avec le Coran et la Sunna. Donc il dit أَمَّا الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْعُلَمَاءِ فَمَا قَدَّمُوا لِلْإِسْلَامِ إِلَّا السَّبَّ وَالنَّقِيصَ. Il dit quant à ceux qui parlent contre les ulama, ils n'ont donné pour l'islam que de l'insulte et de la critique. فَأَهْلُ الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ إِلَى الْمِيدَانِ قَبْلَ غَيْرِهِمْ. Il dit les gens de science, ce sont eux qui se devancent dans le champ de bataille, c'est-à-dire que ce soit le champ de bataille concret, al-midan, c'est-à-dire la confrontation avec les ennemis d'Allah. Et ce sont ceux qui sont responsables de protéger cet héritage de la communauté, l'héritage ilmi, la science de la communauté, du livre et de la sunna. فإذا جاء من من يتنقصهم ويحط من قدرهم فإن هذا يدل على شر عظيم ويجب على المسلمين أن يرفضوا هذه المقالات وأصحابها Il dit donc, quand quelqu'un vient les critiquer et diminuer de leur valeur, ça c'est un grand mal. Et il convient aux musulmans de refuser ces paroles et de refuser les gens qui les disent. وَنِيَأْخُذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ وَلَا شَكَّ أَنَّ هُنَاكَ فِئَةً أَوْ فِئَاتٍ مِنْ بَعْدِ الشَّبَابِ إِنْ عَزَلَتْ عَنِ التَّعْلِيمِ فِي الْمَدَارِسِ النِّظَامِيَّةِ وَفِي الْمَعَاهِدِ وَالْكُلِّيَاتِ وَالْجَامِعَاتِ وَانْعَزَلَتْ عَنِ التَّعْلِيمِ فِي الْمَسَاجِدِ لِأَنَّهَا تُسِيءُ الظَّنَّ بِالْعُلَمَاءِ فَانْعَزَلَتْ عَنِ التَّعْلِيمِ النِّظَامِ وَغَيْرِ النِّظَامِ وَانْطَوَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا. Donc là, Cheikh, là, c'est une petite parenthèse, ça ne concerne pas énormément, mais il dit, là, il parle par rapport à là-bas, à l'Arabie Saoudite, il dit, et il y a maintenant des groupes de jeunes qui se sont écartés de l'enseignement public, puisque l'enseignement public, là-bas, bien sûr, ils étudient notamment les livres de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, et des universités, et ils se sont repliés sur eux-mêmes, parce qu'ils pensent du mal des ulama. Et t'achteri l'kutuba wa taqra'u fiha. Donc ces jeunes-là, ils achètent les livres et ils lisent dedans. وَإِذَا قَرَأَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ صَفْحَةً أَوْ صَفْحَتَيْنِ مِنْ كِتَابٍ أَوْ قَرَأَ الْكِتَابَ كَامِلًا ظَنَّ أَنَّهُ أَصْبَحَ عَالِمًا. Et l'un d'entre eux, quand il lit une ou deux pages de ce livre, ou alors au mieux il a lu le livre complet, ça y est, il croit qu'il est savant. فَصَارَ يَقُولُ وَيُفْتِي وَيُضَعِفُ فِي الْأَحَادِيثِ وَيُصَحِّحُ وَيَجْرَحُ الرُّوَاةَ وَهُوَ الْجَاهِلُ الْمُرَكَّبُ. Et il commence à faire des fatwas, et il déclare des hadiths faibles ou authentiques, et il parle sur les rapporteurs des hadiths, en critique ou en éloge, alors que c'est un ignorant. غَايَةُ مَا يَكُونُ أَنَّهُ يَقْرَأُ الْحُرُوفَ فَقَدْ يَتَهَجَّاهَا وَلَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا. Au mieux, c'est quelqu'un qui lit simplement les lettres et ne comprend pas ce qu'il dit. لِأَنَّهُ لَمْ يَدْرُسِ الْقَوَاعِدَ الْعِلْمِيَّةِ وَالْضَوَابِطَ الْفِقْهِيَّةِ. Puisqu'il n'a pas étudié les règles scientifiques et الْضَوَابِطَ. الضوابط, c'est-à-dire les règles sur lesquelles on doit marcher dans le fiqh. وَالْعُلَمَاءُ يَشْتَرِطُونَ فِي الْعَالَمِ. Et ça, notamment, ça, en France, on en souffre beaucoup. C'est-à-dire, ou en Occident, il ne faut pas se jeter sur n'importe qui va vous apprendre la religion, puisque, comme il déchire, beaucoup, il croit mieux comprendre que les ulama, parce qu'il a lu un ou deux livres. Et après, il veut faire son propre truc à lui. Et il veut faire son propre groupe, ou son propre... il va faire une tendance à lui, et il va nous sortir des nouvelles paroles. والعلماء يشترطون في العالم أو المفتي شروطا عظيمة يشترطون بأن يكون عالما في كتاب الله عالما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بلغة العرب والنحو والصرف والبيان والبديع ومشتقات اللغة التي نزل بها القرآن ونطقت بها السنة وعالما بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وعالما بالصحيح والحسن والضعيف والموضوع من الأحاديث فما كان أحد من العلماء في الأول يجلس للتدريس ولا يفتي بفتوى إلا إذا أعطاه شيوخه إجازة ثم بعد ذلك يزاول العمل على حسب استطاعته. Il dit, les ulama, ils mettent comme condition pour le savant ou pour celui qui fait les fatwas des conditions très difficiles, c'est-à-dire les conditions qu'il doit remplir. Ils disent, il doit être savant du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit connaître la langue des arabes avec ses différentes branches, la grammaire, la conjugaison, al-bayan, al-badir, donc ça c'est comme des sciences d'expression, je ne sais pas comment traduire ça, mushtaqat il-lura, c'est-à-dire les mots d'où est-ce qu'ils sont tirés, tel mot vient de telle racine, etc. Et il doit connaître les versets et les hadiths abrogés et les versets abrogeants. Il doit connaître les textes qui sont d'aspect généraux, les textes qui sont d'aspect particulier, le mutlaq, c'est-à-dire l'absolu, et le muqayyad, c'est-à-dire le conditionné, al-mantuq et le mafhum. Al-mantuq, c'est ce que dit le texte, al-mafhum, c'est ce qu'on en comprend. Et il doit connaître ce qui est authentique et ce qui est faible et inventé parmi les hadiths. Il dit donc, au début, c'est-à-dire avant, il n'y avait pas de ulama qui s'asseyait ou qui ne fasse des fatwas sans que ce soit ses shuyukh qui lui permettent auparavant. Là seulement, il s'asseyait pour faire. وأيضا ما كانوا يحرصون على الكلام في المسائل بل كانوا يتدافعونها كل واحد منهم يقول اذهب إلى فلان يخشون المسؤولية. Aussi, ils n'aimaient pas parler des différentes questions. Au contraire, chacun y repoussait la question à l'autre, puisqu'il craignait la responsabilité. ما كانوا يحرصون على الكلام في العلم ولو كان عندهم مؤهلات ولو كانوا يستطيعون الكلام. لكن مهما أمكانهم أن يجعلوها في غيرهم ومن هو أكبر منهم. Et il n'aimait pas trop parler des différentes questions de science, même s'ils en étaient capables. Et il préférait toujours la repousser à quelqu'un qui était plus digne que eux. وَلَا يَصْلُحُ أَمْرُ الْأُمَّةِ إِلَّا هَكَذَا. Et la communauté ne se rend bien que de cette façon. أَمَّا نِعْتِيَ إِنسَانٌ بَدَائِ ثُمَّ يَجْلِسُ يُفْتِ النَّاسَ يُؤَلِّفُ مُؤَلَّفَاتِ وَيَحْكُمُ عَلَى الرِّجَالِ السَّنَدِ بِالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَيُضَاعِفُ الْأَحَادِيثَ فَهَذِهِ مُصِيبَةٌ وَهَذِهِ مِنَ الْفِتَنِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُحَذِّرَ مِنْهَا وَأَنْ نَخَافَ مِنْهَا غَايَةَ الْخَوْفِ. Il dit, quant à quelqu'un qui vient, et c'est un débutant, et il s'assoit, il commence à faire des fatwas, et il écrit des livres, et il juge les hommes des chaînes de transmission, et il juge les hadiths comme étant faibles, c'est-à-dire il se permet de juger dans les hadiths, il dit ça c'est une catastrophe, et c'est une fitna, et il faut mettre en garde contre cette fitna les gens. Et il faut en avoir peur. فالواجب أن يكون هناك ضوابط لهذا الأمر العظيم الخطير وأن لا يسمح لأحد أن يتكلم في مسائل العلم إلا من عنده أهلية بذلك. Il dit donc ça c'est quelque chose de dangereux et on ne doit pas permettre à quelqu'un de parler dans les questions de la science sauf celui qui en a une capacité. ولا يتكلم إلا بقدر الحاجة أيضا فلا يتكلم بأشياء الناس ليس بحاجة إليها. فلا يتكلم بأشياء الناس ليسوا بحاجة إليها. Il dit aussi il doit parler des questions de science que selon le besoin. Il ne doit pas parler de choses dont les gens n'ont pas besoin. أما عن قضية الاختلاف بين العلماء وموقف المسلمين منه. Quant à ce que Cheikh dit, quant à ce que la question de la divergence entre les savants et la position du musulman vis-à-vis de cette divergence. فالاختلاف أمر واقع وأمر موجود والاختلاف على قسمين. Il dit donc la divergence c'est quelque chose qui existe et elle est de deux sortes. القسم الأول اختلاف فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد مثل أمر العقائد. Il dit la première des deux sortes c'est la divergence dans ce dans quoi on ne peut pas faire d'effort d'interprétation ou d'effort pour sortir un résultat. الاجتهاد comme la croyance. لأن العقائد توقيفية ليس لأحد أن يجتهد فيها وإنما يتبع فيها النصوص الواردة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتوقف عما سكت الله عنه ورسوله ولا يتكلم. Il dit puisque le dogme c'est quelque chose de tawqifi, c'est-à-dire on n'en discute pas et on cherche pas à connaître le tawqifi, ça veut dire c'est pas comme dans le fiqh. Par exemple, on cherche à savoir est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram. L'aqida, elle est là. Il suffit de suivre ce qui est dans le Coran et la Sunna. Donc on atteste pour Allah ce que Allah lui s'est attesté à lui-même et ce que le messager d'Allah lui a attesté. Et on renie d'Allah ce qu'Allah a renié et ce que le messager a renié. Et ce sur quoi Allah et son messager se sont tus, nous on se tait. فالعقائد ليست مجانا للاختلاف. Donc le dogme et la croyance, ce n'est pas un terrain pour les divergences. ومذهب السلف أنهم في العقائد يتبعون الكتاب والسنة ولا يتكلمون إلا بما في الكتاب والسنة من نفي وإثبات فما أثبته الله ورسوله أثبتوه وما نفاه الله ورسوله نفوه وما لم يرد فيه نفي أو إثبات فإنهم يتوقفون فيه. Il dit donc la voie des salaf c'était de suivre le Coran et la Sunna et de ne parler que selon ce qui est conforme au Coran et à la Sunna, que ce soit une négation ou une affirmation. Donc ce qu'Allah et son messager ont affirmé, on l'affirme à propos d'Allah, ce qu'ils ont renié, on le renie, et ce qui n'a pas été cité, on n'en parle pas, contrairement à ce qu'ils font l'Asha'ira dans leur site de charlatan, et ils disent qu'ils sont les gens de la Sunna et ils disent Allah il est ni dans le monde ni hors du monde. Ça c'est des expressions. Citez-moi billah un verset du Coran ou un hadith qui nous dit ce genre d'expression. Allah il n'est pas dans le monde ni hors du monde. Ça c'est une expression, quelqu'un qui l'entend il dit c'est quoi ça, ça veut dire quoi? Donc tu nous accuses de comparer Allah aux êtres humains parce qu'on dit qu'il a deux mains et une face, et toi à quoi t'as comparé Allah? Parce qu'ils disent le fait d'être à l'intérieur ou à l'extérieur, ça c'est propre aux créatures. Donc toi, tu as comparé Allah à quelque chose qui peut être ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Donc au néant. Donc nous, au pire, on a comparé Allah à une créature qui a des attributs louables. Toi, tu as comparé Allah à rien du tout. C'est quoi le mieux? Même si on est, si c'était vrai qu'on était des gens qui comparent Allah à sa créature, on serait toujours mieux que toi. Parce que toi, tu as comparé Allah à quelque chose qui n'est rien. Il est ni dans le monde, ni en dehors du monde. C'est quoi cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on se tait sur ce sur quoi le Coran et la Sunna, ils se taisent. Et jamais dans nos livres ou de nos ulama, tu trouveras une expression qui sort du Coran et de la Sunna. Contrairement à vous. Quand on dit Allah, il a deux mains, ils disent, voilà, ils disent que c'est qu'Allah a des membres et qu'il est composé. Où as-tu vu un savant qui a dit qu'Allah, il est composé? Qu'est-ce que tu veux dire par composé? Qu'il peut se détacher? Si c'est ça que tu veux dire, j'ai pas dit qu'il était composé. Donc ils ne comprennent du Coran que ce qu'on comprend d'un être humain. Quand on dit il a deux mains, toi un être humain, tu sais qu'il a deux mains, si tu lui coupes une main, il a plus sa main. Ils ont compris ça chez Allah. Et de là, ils disent, donc ça veut, on ne peut pas dire qu'Allah il a deux mains. Et nous, on dit qu'Allah il a deux mains, sans qu'Allah il soit composé. Allah, c'est, il est avec ses attributs, et on ne peut pas enlever la main d'Allah, Azza wa Jalla, A'udhu Billah. Ils ont pensé ça au fond d'eux, donc après ils renient la main d'Allah. Donc c'est qui ceux qui comparent vraiment Allah à sa créature? C'est vous. Et ils ont plein de vocabulaire comme ça. Par exemple, vous dites qu'Allah il a un endroit, alors que ni dans le Coran ni dans la Sunna vous trouvez le mot d'endroit. Ce qu'on trouve, c'est qu'Allah il est au-dessus des sept cieux. Eux, ils viennent avec une expression qu'on appelle muhtamila, c'est-à-dire qu'ils laissent supposer du vrai et du faux, et ils te disent, si tu dis qu'Allah il est au-dessus des sept cieux, tu lui as appliqué un endroit. Et ce qu'ils veulent dans l'endroit, c'est le faux. C'est-à-dire le fait qu'on dise par exemple qu'Allah il est contenu dans quelque chose qu'il aurait créé. Et ils te disent donc tu as dit Allah il a un endroit. Si tu rentres dans ce jeu-là avec eux, ça y est, t'as perdu. Parce que bien sûr qu'après tu vas dire bah non, je peux pas dire qu'Allah il a un endroit. Je peux pas dire qu'Allah il a créé un endroit, il s'est mis dedans et il est limité dedans, c'est impossible. Et il va te dire donc tu renies qu'Allah il est au-dessus du trône. Regardez le piège. Ils se taisent pas sur ce sur quoi Allah il s'est tu. Et ce qui est marrant avec eux aussi, ils ont accusé le shirk. Donc dans leur site, vous trouvez une critique et une accusation qu'Allah la renvoie sur eux, de shirk Mohamed Khalil Harras, qui était à la base un Ash'ari et un docteur spécialiste dans la philosophie, et à qui Allah a montré la vérité à travers les livres d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et il est revenu à la voie des salafs. Et après, il les a critiqués. C'est pour ça qu'ils aiment bien s'acharner sur lui. Et le shirk, il dit, à propos des mains d'Allah, il dit comment est-ce qu'on peut dire que la main d'Allah, c'est la capacité, puisqu'ils traduisent la main par la capacité. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit qu'Allah, il va mettre les cieux, la terre, etc. sur des doigts. Et que Allah, avec sa main, il prend et il fait telle et telle chose. Donc ça ne peut pas être la capacité. Ça c'est bien une main, mais c'est la main d'Allah Azza wa Jal. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, regardez comment ce shirk compare Allah à sa créature et dit qu'il a des membres et qu'il est composé. Qui a dit ça? Toi, t'as compris ça. Et donc, tu en accuses le shirk. Le shirk, il a dit que ce qui est dans le Coran, qu'Allah, il a une main, et que cette main, elle ressemble pas à la main des créatures. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Regardez, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le shirk, il est en train de dire, on doit se taire sur ce sur quoi le Coran et la Sunna se tait. Et eux, ils viennent, ils disent, le shirk, il est en train de dire que Allah, il est composé, qu'Allah, il a des membres, ta-ta-ti-ta-ta. Et un autre miskin qui s'est fait tromper par le site, il dit, subhanallah, je suis étonné, comment ils peuvent discuter autant sur Allah, pourquoi ils ne se taisent pas? En parlant du shirk Mohamed Khalil al-Harras. Donc le shirk miskin, rahimahullah, et c'est nous les masakin, lui on espère qu'il est là dans une bonne position, rahimahullah, pour tout ce qu'il a avancé pour la sunna. Le shirk, il fait que dire qu'Allah il a deux mains, tel que c'est écrit dans le Coran et la sunna, et de dire qu'Allah il fait par sa main ce qui est écrit dans le Coran et la sunna. Le shirk, le faux shirk, soi-disant Malik ibn Anas, et qu'Allah il élève l'imam Malik ibn Anas au-dessus de ce charlatan, il vient traduire l'expression du shirk comme quoi il dit qu'Allah il est composé, qu'Allah il ressemble à sa créature. Et le pauvre disciple du pauvre shirk, il dit, oh, regardez, subhanallah, pourquoi ils discutent autant sur Allah, pourquoi ils ne se taisent pas, ils ne disent pas Allah, il ne ressemble pas à ses créatures. C'est qui discute? C'est ton shirk qui dit que quand c'est écrit que la main d'Allah, ça voudrait dire, si on prend le côté apparent, qu'Allah il est composé, qu'Allah il a un membre, comme les êtres humains ils ont un membre, etc. Cheikh il a pas dit ça. Cheikh Allah il a dit Allah il a deux mains, et il a des doigts, et avec ses mains et il prend, et il donne, et c'est tout. Et il élève, et il rabaisse, et il détient les cœurs des êtres humains. Même si toi tu comprends pas comment, c'est normal puisque tu n'as pas vu Allah, et Allah on sait pas il est comment. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas comme les mains des créatures. Voilà. Est-ce que ça, c'est de l'anthropomorphisme ? Anthropomorphiste, c'est quand tu dis, comme ils font les témoins de Jéhovah. Tu dessines une personne avec une barbe blanche assis sur des nuages et tu dis, ça, c'est Dieu. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. Puisque tu as dit, tu as montré que Dieu, il est comme l'homme. La même couleur, la même façon, la même chose. Nous, on dit, Allah, il a deux mains. En aucun cas, j'ai dit, il a deux mains comme l'homme. Donc, regardez comment ils ne se taisent pas sur ce sur quoi Allah et son messager se sont tus. Et ils accusent les gens qui ne font que répéter le Coran et la Sunna de ne pas stériliser. Ben pourquoi ils discutent? Pourquoi ils spéculent autant? Subhanallah, c'est qui les spéculateurs? C'est qui se faisait appeler au début de l'islam Ahlul Kalam? C'était pas Ahlul Hadith qui faisait qu'attribuer les attributs d'Allah. C'était vous, vos ancêtres à vous, qui disaient qu'Allah il est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, qu'Allah il n'a pas d'endroit, ça veut dire il n'est pas au-dessus des sept cieux, etc., etc. Et en plus, votre parole, elle est nouvelle. C'est-à-dire le fait de dire qu'Allah, il est ni dans le monde, ni en dehors du monde, et il n'a pas d'endroit, c'est une nouvelle parole. Même leurs shuyukh, leurs anciens, ils disaient pas ça. Leurs anciens, ils disaient, notamment Jahm ibn Safwan, qu'Allah est partout. Donc au lieu de dire qu'Allah, il est au-dessus des sept cieux, il dit, Allah, il est partout. Vous avez ramené une nouvelle parole dans le madhab Ash'ari, qui est de dire qu'Allah, il n'a pas d'endroit. Donc en tout cas c'est ça, ce qui concerne la croyance, c'est de suivre, c'est de croire à ce qui est dans le Coran et la Sunna, comme ils y croyaient les salafs, et d'affirmer les significations des versets et des hadiths, et de se taire sur ce sur quoi le Coran et la Sunna se sont tus. فَالَّذِي يُخَالِفُ مَنَهَجَ السَّلَفِ يُعْتَبَرُ ضَلًّا وَضَلَالُهُ يَتَفَاوَتُ فَقَدْ يَكُونُ ضَلَالَ كُفْرٍ وقد يكون ضلال فسق دون الكفر كالجهمية والمعتزلة ومن أخذ بمذهبهم. Il dit donc, celui qui diverge de la voie des salafs, il est considéré comme un égaré, et son égarement est à différents degrés. Ça peut être de la mécréance et ça peut être en dessous de la mécréance, comme en ce qui concerne al-jahmiya et al-mu'tazila. فالعقائد ليس فيها مجال للخلاف والواجب سلوك مذهب السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير فقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc ce qui est obligatoire dans la aqida, il n'y a pas de divergence, on ne peut pas diverger ni discuter. Ce qui est demandé, c'est simplement de suivre la voie des salafs parmi les compagnons, les tabi'in, et ceux qui les ont suivis parmi les meilleurs siècles, dont le prophète a dit les meilleurs siècles c'est le mien, puis ceux qui les suivent et ceux qui les suivent. قال الراوي فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة. Et le rapporteur du hadith, il a dit, je ne sais pas si après son siècle, il a cité deux ou trois siècles. Et l'authentique, c'est qu'il y a quatre siècles, quatre générations. Dans Sahih ibn Hibban, le rajout, il est authentique. Il a dit, puis ceux qui me suivent, ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. C'est-à-dire quatre générations. Celle du prophète et les quatre générations d'après. Donc rentre dedans l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, etc. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته إلى آخر الحديث. Ensuite viendra des gens dont le témoignage devance le sermon et le sermon devance le témoignage. وقال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Et dans le hadith que vous connaissez, où il a dit à la fin de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences. Alors je vous recommande ma sunna et la sunna des successeurs bien guidés. Accrochez-vous-y et mordez-la avec vos molaires et méfiez-vous des nouvelles choses, car toute nouvelle chose est une bid'a et la bid'a est un égarement. والله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Et dans le verset il est dit, les prédécesseurs, les premiers parmi les immigrés et ceux qui les ont reçus, Al-Ansar, et ceux qui les ont suivis dans l'Ihsan, c'est-à-dire dans l'excellence, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui, et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans lesquels ils sont éternels, et c'est le grand succès. من سلك هذا المسلك رضي الله عنه وأدخله الجنة هذا منهج المسلمين ومنهجهم منهج السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهو منهج لا اختلاف فيه ومصدره الكتاب والسنة فيجب أن لا نلتفت إلى من خالف منهج السلف في العقيدة. Et donc celui qui suit ce منهج, cette voie, il aura la satisfaction d'Allah. Celui qui suit donc les premiers musulmans, parmi ceux qui ont émigré et ceux qui les ont reçus. Et ça, c'est une voie dans laquelle il n'y a pas de divergence et dont la référence est le Coran et la Sunna. Et donc, on ne doit pas prêter attention à celui qui diverge de la voie des salafs dans le dogme. وَلِذَٰلِكَ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَدْرُسَ عَقِيدَةَ السَّلَفِ وَهَذَا سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ. Et donc, il nous est obligatoire d'étudier la aqida des salafs. Et c'est ça le chemin des croyants, et celui qui suit un autre que le chemin des croyants, Wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannam. Ça, c'est une expression que j'ai du mal à traduire. C'est-à-dire Allah le Wallahu Allahu ma tawalla, bon, je ne vais pas le traduire, wa aslahu jahannam, et il le fait rentrer en enfer. Donc, conformément au verset dans Surat An-Nisa, et celui qui se différencie du messager, après que la vérité, après que la guidée lui soit apparue, et qui suit un autre chemin que celui des croyants, Allah nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Donc nuwallihi ma tawalla, et on le fait rentrer en enfer. Wa hadha al-ikhtilaf 'an manhaj as-salaf sababahu al-hawa. Et la cause de cette divergence, du fait de diverger de la voie des anciens, c'est la passion. Ça fait combien de temps? Ouais. Il reste une page. وأما القسم الثاني من الاختلاف. Quant à la deuxième sorte de divergence, فهو الاختلاف في غير مسائل العقائد من المسائل الفقهية الاستنباطية. Il dit donc la deuxième sorte de divergence, ce sont les divergences dans autres que les questions de la croyance, c'est-à-dire les questions du fiqh. والسبب في ذلك أن للرأي فيها مجالا وأن مدارك العلماء تختلف فهي ليست على حد سواء. Il dit puisque c'est quelque chose qui est un terrain pour les opinions. Et les opinions des ulama peuvent diverger dedans. Minhum man yukhti'u wa minhum man yusib. Kulluhum ma'jurun ma dama anna niyyatuhum tayyibah. Il dit, certains des ulama peuvent se tromper et d'autres peuvent avoir raison dans ces sujets-là. Et chacun d'entre eux, inshallah, est récompensé tant que son intention était bonne. Wa yuridun al-haqqa wa hum mu'ahhalun lil-ijtihad. Et ils veulent aussi, et s'ils veulent aussi la vérité, et qu'ils sont aptes à faire l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort de recherche. Donc ils sont récompensés tant que leur intention était bonne, et qu'ils voulaient la vérité, et qu'ils étaient aptes à faire l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort pour avoir la vérité dans le sujet. Et le but de chacun d'entre eux, c'est d'arriver à la vérité. Et ça, c'est commun à tous les ulamas des musulmans. Donc ces gens-là aussi, par la parenthèse, c'est qu'ils disent aussi que les salafistes ou les wahhabites, ils sont innovateurs dans le fiqh. Alors que tous les avis des ulamas, ce sont des avis, comme si vous prenez les ulamas d'Arabie Saoudite par exemple, c'est des ulamas de formation, on va dire, hanbalite. Donc ils sont bien rattachés à une des quatre écoles juridiques. Même si des fois, ils peuvent diverger de l'école hanbalite, parce que leur dalil il leur apparaît, et à ce moment-là, ils vont choisir une autre opinion, mais qui est toujours une opinion qui est rattachée à un des imams qui était connu. Et il n'y a pas que quatre imams dans le fiqh qui sont reconnus. Il y a plus que eux. Il y a aussi l'imam Ishaq ibn Rahawai, Sufyan al-Thawri, al-Tabari. C'est-à-dire il y a beaucoup d'autres imams dont on raconte les opinions. Ou alors les deux élèves d'Abu Hanifa. C'est-à-dire il n'y a pas que les quatre imams dont on a le droit d'avoir l'opinion. Il se peut que les quatre imams ils aient une opinion, et un des autres comme Ishaq ou Soufiane al-Thawri, ils divergent d'eux et qu'ils soient dans la vérité. Donc simplement les quatre imams, ils ont été connus pour avoir été plus suivis et des écoles, elles sont formées entre guillemets, des courants pour suivre leur fatwa. Donc je vois pas en quoi les salafis ou les wahhabites, comme ils les appellent, ils sont innovateurs dans le fiqh, puisqu'il ne faut que suivre le courant et la sunna à la lumière des opinions des ulama et des prédécesseurs. Et ça, c'est ce à quoi appelait Cheikh al-Albani, rahimahullah. Cheikh al-Albani, il appelait à ce que celui qui étudie l'islam, il étudie le fiqh à travers le Coran et la sunna, et il s'éclaire par les opinions des salafs. C'est-à-dire, il étudie la question et les preuves qui sont dans la question, et il regarde qu'est-ce qu'ils en ont dit les salafs, qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shafi'i, qu'est-ce qu'il a dit Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik. Donc je vois pas où est l'innovation là-dedans. Il faut qu'on m'explique. الهدف الوصول إلى الحق لكن منهم من يطلبه ويوفق ومنهم من لا يصل إليه وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولكن كلهم مأجورون والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. Il dit, le but c'est d'arriver à la vérité. Donc celui qui cherche la vérité et qui la trouve, Allah lui facilite de la trouver. Et d'autres, peut-être ils n'arrivent pas à la vérité. Et ça, c'est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Mais chacun d'entre eux, Inch'Allah, est récompensé. Puisqu'Allah dit, quand le juge juge al-Hakim, donc celui qui doit juger, et qu'il fait un effort, yajtahid, et qu'il trouve la vérité, c'est-à-dire dans son jugement, il a deux récompenses. Et s'il juge et il fait un effort et il se trompe, il n'a qu'une récompense. Donc ça, c'est notre croyance vis-à-vis des ulama, c'est que celui d'entre eux qui se trompe, il est récompensé pour son effort, puisqu'il est apte à faire l'effort. واختلاف المذاهب الأربعة من هذا القبيل وكلها والحمد لله مذاهب سنة. Il dit, la divergence entre les quatre écoles fait partie de cette divergence, et ces quatre écoles sont des écoles des gens de la sunna. فالأئمة الأربعة عقيدتهم واحدة لم يختلفوا فيها عن منهج السلف لكن يختلفوا في الفقه والاستنباط وفي المسائل الفقهية. Donc les quatre imams, Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Shafi'i, Muhammad ibn Idris et Ahmed ibn Hanbal, ils étaient sur une seule et même croyance et ils n'ont pas divergé de la voie des salafs. Mais ils ont divergé dans le fiqh et dans les questions du fiqh. وهذا لا يجلب عداوة فيما بينهم. Et ça n'amène pas d'animosité entre eux. بل كانوا فيما بينهم إخوة يصلي بعضهم خلف بعض ويحب بعضهم بعضا وكانوا إخوة. Mais ils étaient des frères les uns envers les autres et chacun priait derrière l'autre et ils s'aimaient les uns les autres. الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي كلهم والحمد لله إخوة ولا يؤثر بينهم الخلاف الذي في المسائل الفرعية عداوة. Il dit donc que la personne elle soit Hanafi ou Shafi'i ou Hanbali ou Malikit, chacun d'entre eux, c'est-à-dire en deux, ils sont tous des frères, et cette divergence qu'ils ont dans les questions de fiqh, elle n'amène pas d'animosité entre eux. Wali Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Risalatun yubayyinu fiha anna ikhtilafahum fi al-masa'il al-fiqhiyya laysa fihi lawm. Et Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, donc c'est la grande référence des wahhabites salafistes, donc. Regardez ce qu'il a écrit, Cheikh Hidi, il a écrit une risala à propos des divergences entre les quatre imams, dans laquelle il dit donc que ces divergences, aucun des imams n'est blâmé dans ces divergences. لأنهم كلهم يريدون الحق, puisque chacun d'entre eux voulait la vérité. ولكن منهم من يصل إليه ومنهم من لا يصل إليه. Mais certains d'entre eux y arrivent et d'autres n'arrivent pas à cette vérité. والذي لم يصل معذور ولكن إذا تبين لنا بالدليل أن قول فلان هو الصواب ورأي فلان خطأ يجب علينا أن نأخذ بالصواب ونترك الخطأ. Il dit, celui qui n'arrive pas à la vérité, il est pardonné, il est excusé. Mais nous, quand il nous apparaît avec la preuve qu'un tel a eu raison et qu'un tel s'est trompé, nous on doit suivre ce qui est la vérité et délaisser le faux. لكن لا نحط من قدر هذا المجتهد الذي أخطأ ولا ننتقصه. Mais on ne va pas critiquer et diminuer de la valeur de ce mujtahid, de ce savant qui pour nous s'est trompé. لأنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى puisqu'il est récompensé auprès d'Allah. بل ندعو له ونترحم عليه. Mais au contraire, nous on invoque pour lui et on demande à Allah de lui faire miséricorde. ونقول العصمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et on dit la perfection n'est que pour le Coran et la Sunna. والإمام مالك يقول كلنا رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني الرسول. Et l'imam Malik ibn Anas disait chacun d'entre nous raddun, c'est-à-dire renvoie les paroles des autres, et lui-même on renvoie sa parole. C'est-à-dire on prend de lui et on rejette, sauf celui qui est dans cette tombe, et il a montré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wal imam al-Shafi'i yaqul idha khalafa qawli qawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fadribu bi qawli 'ard al-ha'it wa yaqul radiyallahu an idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi. L'imam Shafi'i disait si ma parole diverge de la parole du prophète, alors frappez ma parole contre le mur. Et il disait aussi si le hadith est authentique, alors c'est mon madhhab, c'est-à-dire c'est mon opinion. والإمام أحمد أيضا يروى عنه الشيء الكثير في هذا أنه كان ينهى عن الأخذ برأيه أو برأي فلان ويوجب الأخذ بالدليل. Et l'imam Ahmed aussi, il y a beaucoup de paroles de lui qui ont été rapportées comme quoi il interdisait de prendre son opinion ou l'opinion d'un tel et il est obligé de prendre ce qui correspond à la preuve. وهذا الخلاف لا يوجب عداوة بين المسلمين. Et ça, en aucun cas, ça n'applique une animosité entre les musulmans. Et ça, c'est dommage. Maintenant, vous voyez des gens, ils sont Ahl Sunnah wa Jama'a, et pour une divergence de fiqh, ils vont se casser la tête. Alors que peut-être des gens qui sont plus accrochés à des madhahib, Cheikh dit, ils n'ont pas à se avoir d'animosité entre eux. Et tu vois des gens, tous, ils se disent Ahl Sunnah. Celui-là, quand il se relève de Roku, il pose ses mains sur sa poitrine. L'autre, il laisse ses bras qui tombent. Et après, ils vont commencer à discuter. Et ils vont avoir de la haine l'un envers l'autre. Ou alors l'autre il dit que c'est obligatoire que sa femme elle cache son visage, l'autre il dit non c'est pas obligatoire, et ils vont avoir de la haine, l'un, ils vont se disputer. Ou alors l'autre il dit celui qui délaisse la salat c'est un kafir, l'autre il dit non pour moi c'est un fasir, et ils vont se disputer, ils vont commencer à... Comme si ça c'était des questions d'aqida sur lesquelles tu t'allies et tu te désavoues. Alors que Cheikh il dit même avec un malikite, un shafi'i, un hanafi, ils n'ont pas à avoir de la haine les uns les autres à cause de ces questions. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. Donc Cheikh dit, je demande pardon à Allah pour moi-même et pour vous et pour le reste des musulmans. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.